Alors effectivement, on a échangé nos places, David et moi. Il est à Loudun et moi je suis venue de Loudun à Saumur. C'est important pour Loudun de garder un lien avec notre pasteur, de le voir de temps en temps. Donc c'est comme ça qu'on s'est arrangé. Alors vous avez les plus fraternelles salutations de toute la petite assemblée de Loudun qui se réunit ce matin, donc dans la joie. On est encouragé, on a eu des moments un peu difficiles, comme dans toutes les assemblées, avec moins de monde, des difficultés chez les frères et sœurs. Et puis on voit que le Seigneur est toujours là, qu'il ne nous lâche pas et ça repart. On est encouragé par l'arrivée de différentes personnes, donc on veut vraiment lui rendre gloire. Alors ce matin, je vais continuer la série que vous avez commencée sur les attributs de Dieu, c'est bien ça? Voilà, mais on va jouer un petit peu, vous êtes un peu joueurs. Je vais pas vous dire duquel je vais parler tout de suite, vous allez le deviner. C'est pour être sûr que tout le monde soit avec moi. Alors, je suis désolée pour les nouveaux, parce que je sais qu'il y a pas mal de nouvelles personnes qui arrivent et ça nous encourage. Je vais faire référence à des chants qui sont plutôt anciens, pas très longtemps, rassurez-vous. Donc, je fais appel à la mémoire des plus anciens parmi nous. Et pour deviner la tribu du matin, si je vous dis « Romance du printemps hors de l'automne », est-ce que quelqu'un a la suite des paroles et voit de quel chant je parle ? Ah, j'entends. Dites pas trop fort, oui. Oh, je vous dis la suite. Romance du printemps, hors de l'automne, neige hivernale ou saveur de l'été. La suite. Tout l'univers à ta louange entonne. L'hymne, j'ai entendu, hein. L'hymne à ta grâce, à ta fidélité. Bien. Alors, grâce ou fidélité? Bon, deuxième indice. Il n'est pas plus facile parce que le chant, il est tout aussi ancien que le premier. Si je vous dis, il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Oui, on va trop fort. C'est ça. Donc voilà, le suspense est levé, on va parler de la fidélité du Seigneur ce matin. Oui, quel ami fidèle et tendre, hein, je vous donne le refrain. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Et c'est ce que je vous disais après, il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Alors, puisqu'on parle de la fidélité du Seigneur, est-ce que vous avez des versets spontanément, si je vous dis fidélité, des versets qui vous viennent? Un petit peu plus difficile. Hein. Ouais, il est fidèle en toute chose, ouais. Ouais. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Si vous allez sur Internet et que vous recherchez des versets avec fidélité, ça va de 15 à 73, selon les différents sites qui les recensent. Je ne vais pas tous les lire, évidemment, ce matin. Le but du jeu, c'est pas de faire un listing. Mais je vous invite à faire la recherche et ça vous donnera une bonne occasion de dire que vous avez votre téléphone dans la main. Pas maintenant, évidemment, hein, mais chez vous. Et ce matin, on va vraiment retenir quelques-uns et on verra à la fin, je m'attarderai sur un passage un petit peu plus long. Mais avec vous, je vous propose ce matin qu'on réfléchisse à la fidélité de Dieu en trois points ou trois étapes. On va d'abord définir ce que c'est que la fidélité de Dieu et on va voir qu'elle a des liens avec d'autres attributs de Dieu. On va voir les effets de cette fidélité sur nous. Et puis après, ça piquera un petit peu parce qu'on va réfléchir à notre propre fidélité envers le Seigneur. Alors la fidélité, c'est très classique, hein, vous connaissez. Quelle est la définition de la fidélité? Pas forcément de Dieu, mais la fidélité tout court. C'est le fait d'être constant dans ses affections, dans ses sentiments, ses relations, ses engagements, ses devoirs. Dit autrement, c'est la capacité à ne pas trahir un serment ou la confiance d'autrui sur la durée. On parle de fidélité à quelqu'un, on est fidèle à quelqu'un, à quelque chose. On parle aussi d'être fidèle à faire quelque chose. Les synonymes de la fidélité, c'est la loyauté, l'assiduité, la régularité, la persévérance, la constance et la foi. Oui, la foi, ça se traduit par confiance, mais aussi par fidélité. Et il y a donc vraiment une notion d'engagement, de durée, de stabilité. Entre humains, on va parler de fidélité conjugale, bien évidemment, mais aussi de fidélité en amitié, d'être fidèle à ses convictions, d'être fidèle à ses engagements, à sa parole. Qu'en est-il pour le Seigneur? Qu'en est-il de Dieu? Alors, on a vu dans le chant, le deuxième dont on a parlé, Jésus nous est présenté comme un ami fidèle et tendre, un ami fidèle. Mais le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, nous présente aussi le Seigneur monté comme un cavalier sur un cheval. Et ce cavalier est nommé fidèle et véritable. Je vous lis, c'est dans Apocalypse 19, le verset 11, où Jean dit « Je vois le ciel vert et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. » C'est ça qui est beau avec le Seigneur, c'est que c'est notre ami à la fois, mais c'est aussi ce cavalier. Il y a cette prestance, il y a ce respect qu'on lui doit, c'est touchant. Alors on sent bien que la fidélité de Dieu est d'un autre niveau que la fidélité des hommes. Et tu vas pouvoir mettre la première diapositive. S'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez ce matin à propos de la fidélité de Dieu, c'est ce verset qu'on trouve dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, au chapitre 2, le verset 13. « Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne pourra jamais se renier lui-même. » Je vous le redis. « Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne pourra jamais se renier lui-même. » La fidélité de Dieu, c'est vraiment le socle sur lequel repose tout ce qu'il est. C'est la base pour nous, pour notre assurance. C'est la base qui nous permet de croire que nous pouvons avoir une pleine et entière confiance en lui. Ce passage, ce verset de 2 Timothée 2, 13, renvoie à un passage de l'Ancien Testament. Dans le livre des Nombres, au chapitre 23, le verset 19 nous dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas ?» C'est bon de lire des passages comme ça, non ? Moi, ça m'encourage beaucoup. Je vous propose qu'on s'attarde quand même un peu sur ce passage de 2 Timothée 2, 13. Je vais le lire en entier, je vais remonter un petit peu, je vais lire les versets 11, 12 et 13. Si tu peux juste attendre, je le lis en entier, puis après on le fait par morceaux sur le diapo. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, donc avec Christ, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Et ce qu'on a lu tout à l'heure, si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. On va reprendre morceau par morceau. Cette parole est certaine. Ah oui, vous voyez à peine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Là, jusque-là, on suit facilement. Vivre, mourir, persévérer, régner, c'est des verbes qu'on comprend facilement, même si je suis d'accord avec vous, l'idée de régner, c'est peut-être pas quelque chose d'évident pour nous. Mais vient la suite. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Ah ! Là, on a deux possibilités. Soit on oublie le passage qui parle de reniement et on ne retient que la fidélité de Dieu, qui demeure face à notre propre infidélité, ou au contraire, on est interpellé par cette idée que Dieu nous renie et on veut creuser, en savoir un petit peu plus. Alors creusons. Quand on cherche le sens du mot renier ici, on voit vraiment que c'est le sens de renier quelqu'un, d'agir entièrement d'une autre façon. C'est dénier, c'est abjurer, renoncer, ne pas accepter, rejeter ou refuser une chose offerte. Et en fait, Dieu est tout à fait logique. Si nous le refusons, si nous le rejetons dans nos vies, si nous renonçons à lui, eh bien, comme il le dit lui-même dans sa parole, il fera de même avec nous. Vous pouvez lire dans les deux évangiles, dans Matthieu comme dans Luc, Matthieu 10, verset 32-33, c'est Jésus qui parle, « C'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle, devant mon Père céleste, mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père céleste. » Et dans Luc, chapitre 12, versets 8 et 9, toujours Jésus qui parle, « Je vous le dis, toute personne qui se déclarera pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour elle devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. » C'est ce que j'aime dans la parole de Dieu, et tu l'as bien dit, on en a vraiment besoin, elle est vivante, c'est que Dieu est cache avec nous, il ne nous cache rien. Il est cache, c'est vrai, mais on est prévenu. Ainsi, si nous nous déclarons pour lui, devant les hommes, publiquement, et c'est ce qu'on fait par exemple quand on prend notre baptême, lui, il fera de même pour nous dans les lieux célestes et devant les anges. Et si au cours de notre vie avec lui, nous sommes infidèles, là, tout change, parce que nous serons infidèles, soyons honnêtes, eh bien là, quel réconfort de lire que lui, il reste fidèle et il ne peut se renier lui-même. Donc voyez la différence entre renier, refuser l'offre du Seigneur et ne pas l'avoir dans notre vie, et être infidèle, c'est autre chose. Quel grand Dieu on a là. Quand on a pris la décision de le suivre et qu'on trébuche, parce qu'on trébuchera, lui ne change pas, lui n'est pas comme nous, il ne peut se renier lui-même, il ne peut pas se rejeter lui-même, il ne peut abjurer, renoncer à qui il est parce qu'il est Dieu. Et sa fidélité, elle nous est acquise par sa nature propre. Je vais citer un verset de Jacques, chapitre 1, verset 16. « Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. » Ouais, tu peux avancer. « Ils descendent du Père des Lumières en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. » Et c'est ce qui m'amène à mon deuxième gros plan, c'est que la fidélité de Dieu, on ne peut pas la dissocier de son immuabilité. L'immuabilité, c'est quoi? C'est être identique, c'est ne pas changer. Les synonymes, c'est invariable, constant, continu, durable, fixe, éternel, ferme, inébranlable. Si Dieu était muable, ça voudrait dire qu'il pourrait changer. Et nous n'aurions aucune certitude quant à la valeur de sa parole, à la valeur de ses promesses, de ses bénédictions. Ce serait terrible, en fait. Et ce serait la même chose pour tous ses attributs. Si Dieu pouvait changer, si Dieu variait, qu'est-ce qu'il en serait de son amour pour nous? De sa bonté? De sa tendresse? De son pardon? De sa compassion? Vous imaginez que Dieu puisse être comme nous, fluctuant au gré de ses humeurs ou de ce qu'il observe? On pourrait imaginer, de tout ce qu'il voit sur la terre, il se dit « Oh là là, aujourd'hui... » Ben non. Et ça m'a interpellée, cette réflexion, en me disant « Mais combien de fois est-ce que nous, on ne prête pas à Dieu ce caractère changeant, comme s'il pouvait changer au gré de nos manquements, de notre consécration qui est fluctuante? Combien de fois on a entendu, et on a peut-être dit nous-mêmes, qu'on sentait que Dieu était lointain parce que on n'avait pas lu la Bible assez, ou qu'on n'avait pas assez prié, ou qu'on n'avait pas assez fait ci ou ça, ou qu'on avait trop fait ci ou trop ça? Alors c'est vrai que le Saint-Esprit est en nous, et il nous montre quand les choses dans notre relation avec le Seigneur, quand les choses prennent une mauvaise tournure, quand notre fidélité est fragilisée, c'est vrai, et on doit l'écouter. Mais au risque de vous choquer et de vous déranger, je vais vous dire que Dieu nous aime toujours de la même manière, que nous lisions la Bible ou pas, que nous prions tous les jours ou jamais, que nous nous péchions peu, beaucoup ou pas du tout, ce qui est très difficile quand même. Je suis désolée si je vous choque, parce que ça m'a choquée aussi quand j'ai compris ça, mais ce n'est pas ce que nous faisons qui compte le plus pour le Seigneur. Comme si on devait engranger des points, comme dans un jeu, ding ding ding, elle a eu sa Bible, bam, 50 points, elle a prié, pouf, 50 points. Ce qui compte pour Dieu, c'est la relation qu'on a avec lui, la place qu'il a dans notre cœur, dans notre vie, l'importance qu'on lui donne par rapport au reste, par rapport à nous, à notre petit confort, à nos petites envies. Le reste, ces fameuses actions, lire la Bible, bon, bref, etc., c'est que la traduction de ce que nous, de la place que nous lui donnons, nous. Ça découle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui se passe dans notre âme, dans nos pensées, dans notre cœur. Tout ça va se traduire par des actions. Dieu nous aime. Il nous veut heureux. Il a envoyé Jésus pour nous sauver. Le sacrifice de Jésus, il est parfait, mais la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Mais revenons à la fidélité et l'immuabilité de Dieu. Merci Seigneur, parce que tu ne changes pas. S'il changeait, nous n'aurions aucune certitude sur notre salut, sur notre vie éternelle même. Ce serait terrible, non? Comment construire une vie de foi avec quelqu'un qui changerait? Voilà pourquoi la fidélité de Dieu, c'est vraiment important pour bâtir notre foi sur un fondement solide. Elle est donc le socle sur lequel repose tout ce qui qualifie et définit Dieu, je l'ai dit. Mais aussi, cette fidélité, c'est le socle sur lequel nous, on va pouvoir nous appuyer pour avoir accès aux différentes bénédictions, aux différents bienfaits de Dieu. Alors, je ne vais pas les lister tous ce matin, j'en ai pris quelques-uns, et on va s'y attarder un peu plus, et on va pouvoir voir quels sont ces versets qui parlent de la fidélité du Seigneur. Première chose sur laquelle nous pouvons nous appuyer vraiment par sa fidélité, c'est la communion avec Jésus, tous les jours. On a chanté « Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus », mais c'est pour avoir une relation avec lui tous les jours, à chaque instant. Et c'est ce qu'on peut lire en 1 Corinthiens 1:9, « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est notre bienfait numéro un, la communion avec le Seigneur. Il est toujours là. Et peu importe que vous le sentiez ou pas, il est toujours là, c'est écrit dans la parole. Deuxième bienfait, bénédiction, sa bonté et sa compassion. Et on va citer un verset que peut-être plusieurs connaissent déjà. Ça se trouve dans l'Ancien Testament, dans les Lamentations de Jérémie, le chapitre 3, les versets 21 à 26. Le début, on le connaît assez souvent. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. » Elle se renouvelle chaque matin. Et souvent, on s'arrête là. Mais la suite, « Oh, que ta fidélité est grande !» L'Éternel est mon partage, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et on voit bien dans ce verset comme la fidélité de Dieu, c'est la clé du reste, la clé de l'espérance, de la bonté, de la compassion, du secours de Dieu. Un autre de ses bienfaits, c'est sa protection dans les temps de tentation et d'épreuve. Paul écrit aux Corinthiens, dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, le verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il permettra aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et combien de fois on a tendance à dire « Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? T'es où ?» Mais il est là et il ne nous lâche pas. Le psaume 91, verset 4, « Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Imaginons vraiment le bouclier, on peut se cacher derrière, et la cuirasse qui protège notre cœur. Et puis toujours dans Lamentations, on retrouve le prophète Jérémie, « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous protégera du mal. » Ça va ? Dernier bienfait, et pas le moindre, c'est son pardon. Et ça a été annoncé déjà tout à l'heure quand on a entendu les prières et les chants. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans sa première lettre de Jean, au chapitre 1, verset 9. « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Ça, c'est vraiment important. Et ça résonne avec ce qu'on a lu tout à l'heure sur la fidélité de Dieu malgré nos infidélités. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça c'est quelque chose qui me touche vraiment particulièrement, cet aspect de Dieu, de savoir qu'il sait d'avance que je ne serai pas toujours à la hauteur de son amour, que je vais chuter, que je vais commettre des erreurs, mais ça ne change pas qui il est, et ça ne change pas qui il est pour moi. Ça ne me donne pas l'autorisation d'en profiter en me disant « Allez, vas-y, pêche, ce n'est pas grave, Dieu est fidèle, tatatatat. » Au contraire, ça me remplit de crainte, mais une sainte crainte, un respect, une admiration pour ce Dieu qui supporte, sans changer, sans se détourner, ma médiocrité, mon amour si petit et si imparfait par rapport au sien, mes péchés, mes tentatives d'excuses bidons pour m'en sortir, mon orgueil, mes manquements, mes ratés. Lui, il sait tout, mais il ne change pas. Ça nous renvoie à nous-mêmes. Comment on est, nous, dans nos relations avec les autres? Est-ce qu'on fait un dixième de ce que Dieu fait? Combien de fois on revient sur nos paroles? Combien de fois on revient sur nos engagements? Et puis, quand on a été blessé par quelqu'un et que cette personne vient nous demander pardon, est-ce qu'on pardonne comme lui pardonne? Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Waouh !
La Bible, elle contient de nombreux exemples de la fidélité du Seigneur et face à toute épreuve, cette fidélité à toute épreuve. On peut bien sûr penser à Abraham. Abraham à qui Dieu avait promis une descendance, qui n'en avait pas. Et puis comme ça mettait du temps à arriver, ben Abraham il a fait comme on fait parfois, il a décidé de prendre les choses en main avec Sarah. Hein. Et puis il a accepté de coucher avec Agar, la servante de Sarah, sa femme. Et puis Ismaël est né. Mais Dieu, ça n'a pas arrêté Dieu dans son projet. Il n'a pas détourné ses yeux de Abraham et il a continué, il a maintenu la promesse. Il n'est pas revenu sur cette promesse et Abraham est devenu le père d'Isaac, conçu avec Sarah, et Abraham est devenu l'ancêtre des croyants, de ce fameux peuple aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Alors que si ça avait été nous face à Abraham, est-ce qu'on n'aurait pas été tenté de lui dire « Non mais dis donc garçon là, maintenant t'assumes, hein, débrouille-toi tout seul, t'as pas su attendre, au revoir. » Seigneur, non. Un autre exemple, c'est le roi Saül. C'est le roi qui a été roi avant le roi David. On connaît David, un homme selon le cœur de Dieu, mais avant David, Dieu avait oint Saül pour être roi d'Israël. Et ce Saül, je vous invite à le lire son histoire dans l'Ancien Testament, il n'est pas très reluisant comme roi, on va dire. Il a peur, il va se cacher avant qu'on le cherche pour le nommer roi. Ensuite, il a peur de ses soldats, il a peur du peuple. Donc, comme Samuel arrive, n'arrive pas le prêtre qui doit célébrer, bref, offrir une victoire, il dit « bon, je vais faire les choses à la place de Samuel ». Il désobéit, bref. Eh bien, Dieu ne va pas lui retirer la royauté tout de suite pour autant. Il va le prévenir. « Puisque tu m'as désobéi, la royauté va sortir de ta famille, mais toi, tu vas rester roi. Wow. » Waouh. Nous, on en connaît, qu'on aurait envie de changer de poste. Trois petits points. Pour moins que ça. Voilà. Mais ça peut être dans notre travail aussi, hein. Je parle pas que de politique. Voilà. Mais non, mais quelle patience de la part de Dieu et quelle fidélité à sa parole. Mais le plus bel exemple, en tout cas pour moi, il est dans le Nouveau Testament avec Pierre. L'apôtre Pierre. Ha! Sacré personnage. Et c'est avec Pierre qu'on va réfléchir à nos propres infidélités. Alors là, je vais vous lire plusieurs passages. Vous aimez les histoires? J'espère. On va prendre l'évangile de Matthieu au chapitre 26, on est tout à la fin. C'est le temps où Jésus a été arrêté. Même avant, chapitre 26, c'est le repas de la Pâque. Jésus sait que sa mort approche, il est avec ses disciples et c'est le moment du dernier repas. Ils ont fini. Et on va lire le passage de Matthieu 26, les versets 30 à 35. Après avoir chanté les psaumes, ils, donc Jésus et les apôtres, se rendirent au mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, t'entends ? Prit la parole et lui dit, même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, trois fois tu me renieras. Pierre lui répondit, même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Waouh, tout à fait nous, tout feu, tout flamme, Seigneur, oui, je te donne mon cœur, il est à ma main. Ouais. Jusqu'au moment où les choses se compliquent. Et plus loin, les choses se compliquent, puisque Jésus est arrêté, il est emmené chez le grand prêtre Caïphe, et les apôtres suivent. Je saute dans le chapitre 26, je vais au verset 57. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez le grand prêtre Caïphe, où les spécialistes de la loi et les anciens étaient rassemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du grand prêtre, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Je reste toujours sur Pierre, j'avance encore dans le texte, verset 69. Or Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec lui, avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous en disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Cet homme aussi était avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau, avec serment, « Je ne connais pas cet homme !» Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, « Certainement, toi aussi tu fais partie de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » En fait, c'était son accent de Galilée. Alors, il se mit à jurer en lançant des malédictions. « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, un coq chanta. Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit. « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Il sortit et pleura amèrement. Est-ce que quelqu'un parmi nous a déjà pleuré amèrement dans son état de pécheur? Quand on se convertit, on est tout feu tout flamme. « Seigneur, toute ma vie pour toi, jamais plus pécheur. » Et patatras, un jour on pêche, vraiment, on est repris, et là c'est la catastrophe. On se dit, mais comment j'ai pu faire ça? Et c'est là où le verset qu'on a lu tout à l'heure, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pardonné, c'est une immense bouffée d'oxygène. Et c'est l'apprentissage que maintenant les choses commencent vraiment. Quand on a donné notre cœur au Seigneur, c'est maintenant qu'il va falloir s'aligner sur sa parole et qu'on va avoir besoin de son pardon. Et notre Pierre, tout feu, tout flamme, et pourtant, balayé par le péché. Et péché, ben, c'est être infidèle. Mais, il y a un grand mais. Il y a de l'espoir pour le pécheur qui se repent, on l'a dit. Là, on va changer d'évangile, on va aller dans l'évangile de Jean pour avoir la fin de l'histoire. Au tout dernier chapitre de l'évangile de Jean. Magistral, ce chapitre. Les disciples ont quitté Jérusalem, on les retrouve en Galilée, c'est leur région, et ils vont pêcher, puisque ce sont des pêcheurs. Ils pêchent toute la nuit. Mais ils ne capturent rien. Jésus est sur la plage et eux, ils ne l'ont pas reconnu. Il leur demande s'ils ont eu du poisson, s'ils ont pêché, et ils répondent que non. Alors il leur dit « Jetez votre filet du côté droit de votre barque. » Ils le font, et là le filet déborde de poissons. Là, le disciple que Jésus aimait, on pense que c'est Jean, c'est ce qu'on s'accorde à dire, reconnaît Jésus à ce moment-là. Mais Pierre est dans la barque. Mettez-vous un peu à sa place. Jean nous dit que c'est la 3e fois que Jésus apparaît à ses disciples depuis sa résurrection. On ne sait pas s'ils ont déjà parlé avec Pierre. Bon. Mais là, c'est un contexte encore différent. Ils sont dans ce lieu qui doit leur rappeler la période bénie de la vie avec Jésus quand ils le suivaient pendant les 3 ans. Ils étaient souvent au bord du lac. C'était les repas au bord du lac, les ensemble, les enseignements. Et là, comme dirait la pub, oui, mais tout ça, c'était avant la fameuse nuit de l'arrestation. Et Pierre, je me mets à sa place, mais il doit être très mal. Du coup, comme il était juste en vêtements légers pour aller pêcher, il se rhabille. Est-ce qu'il prend conscience de sa nudité ou de sa fragilité? Je ne sais pas. Il se rhabille et il se jette dans l'eau, il traverse, il saute à l'eau. Et puis Jésus ne lui parle pas pour l'instant, demande de prendre des poissons dans le filet. Oh, c'est Pierre qui tire le filet. On nous dit qu'il y a 153 gros poissons dans le filet. Donc j'imagine qu'il était quand même assez... Oh, Pierre, il y va avec toute sa force, il ramène le filet. Vraiment comme s'il faisait preuve de bonne volonté. Mais Jésus ne lui parle toujours pas. Il ne lui dit rien. Et puis le repas se passe. Est-ce que Pierre a beaucoup mangé? On ne sait pas. Mais c'est à la fin du repas que les choses bougent. C'est le moment. Jean, chapitre 21, versets 15 et suivants. « Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ? » « Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » « Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus lui demanda une 3e fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut peiné, car c'était la 3e fois que Jésus lui demandait « As-tu de l'amour pour moi ?» Il lui répondit « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit « Prends soin de mes brebis. Vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimerais pas aller. » Par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Après avoir dit cela, il ajouta « Suis-moi ». Ce passage, il mérite une prédication à lui tout seul, et c'est pas mon but aujourd'hui. Donc, je vais pas revenir sur l'amour, quelle forme d'amour, nanana. On pourrait dire plein de choses. Ce que je voudrais retenir avec vous ce matin, c'est que 3 fois Jésus interroge Pierre, Et trois fois Pierre répond « Oui, Seigneur, je t'aime » comme les trois reniements. Pierre va lui dire « Tu sais tout, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Et c'est vrai. Ce que fait Jésus là, c'est de restaurer la relation entre Pierre et lui. Et rien que ça. Mais c'est bouleversant. Parce que c'est Jésus qui prend l'initiative. Et puis, on s'arrête souvent à ça. Jésus annonce à Pierre la manière dont il va mourir, qu'un autre l'emmènera où il ne veut pas aller. Mais la toute fin du passage dit « Après avoir dit cela, il ajouta « Suis-moi ». Et quand on creuse ce « Suis-moi », eh bien on trouve que c'est se joindre à quelqu'un comme disciple. Devenir ou être disciple, faire partie du groupe. Et là, moi j'ai trouvé ça mais magnifique. Pierre a trahi, Pierre a péché. Pierre s'est repenti. Honnêtement, je le pense, quand il pleura amèrement, c'est qu'il a vraiment pris conscience de ce qui n'allait pas, de ce qu'il avait commis. Mais Jésus ne le lâche pas, ne l'abandonne pas, il reste fidèle. Et il lui dit, deviens un de mes disciples. Waouh ! Mais il en était déjà un. Alors c'est quoi ? C'est que ce qu'il a vécu là en fait vraiment un disciple, il a compris ce que c'était ? Ou est-ce que, moi c'est ce que je veux croire, est-ce que c'est pas plutôt que Jésus lui dit, allez, reviens dans le groupe, je te restaure à ta place. Parce que, dans ce que Jésus lui dit à chaque fois que Pierre lui répond, nourris mes brebis, prends soin de mes agneaux, c'est exactement le message qu'il lui avait déjà donné au tout début de leur rencontre. Tu seras Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Pierre devait diriger l'église de Jérusalem et c'est ce qu'il va continuer à faire. L'appel de Jésus, l'appel de Dieu sur sa vie n'est pas rompu, n'est pas terminé parce qu'il a trahi le Seigneur. Waouh! Et cette idée qu'il lui dit « Viens dans le groupe, je te ramène dans le groupe », mais ça m'a vraiment ça m'a bouleversé. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça bouleversant. Rentre à la maison, quoi. Reviens. Dieu reste fidèle à son plan pour Pierre, à qui il l'avait déjà annoncé. Et le verset, le fameux verset de 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Il est écrit par Jean. Jean, il a assisté à toute cette scène. Il était là. Alors, est-ce que Jean était déjà au courant des états d'âme de Pierre ? Est-ce qu'ils se sont parlé ? On ne sait pas. En tout cas, il a assisté à cette scène et il a été témoin, vraiment, que Dieu est fidèle et juste pour pardonner nos péchés et nous purifier de tout mal. Donc, quand nous sommes infidèles, confessons nos péchés, revenons aux pieds du Seigneur. Lui, il reste fidèle. Et ce n'est pas parce que vous vous êtes trompé, parce que vous avez fait un mauvais choix, que l'appel de Dieu et sa fidélité et ses projets pour votre vie sont ruinés. Il n'est pas comme nous, mais il demande un cœur sincère qui se repent, ça certainement. Retenons donc que notre Dieu est fidèle, immuable, que sa fidélité, c'est la clé de voûte de son amour, de sa bonté, de sa compassion, sa justice, son pardon. Sa fidélité nous renvoie à notre fidélité envers lui, tellement fragile, tellement imparfaite, mais que cela nous encourage à lui faire confiance, à nous appuyer sur lui, à ne pas lâcher quand les tentations arrivent, quand les épreuves durent, à être toujours plus fidèle à notre tour, tout en sachant qu'on rencontrera des difficultés. Que nos cœurs s'élèvent vers lui pour le louer pour sa fidélité parfaite. On peut lire dans le psaume 37, « L'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas rejeté car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, et j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. » J'arrive au bout de mon message, et pour le terminer, je voudrais juste qu'on lise les paroles de ce chant dont on a parlé au début, « Dieu, ta fidélité ». Alors j'ai mis les paroles, voilà. Le refrain dit « Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité dure à toujours. » La première strophe, « Dieu, ta fidélité va jusqu'au nu, plus vaste est ton amour que l'horizon. Ta tendre main est toujours étendue, inépuisable est ta compassion. » Le fameux passage, « Romance du printemps, or de l'automne, neige hivernale ou saveur de l'été. Tout l'univers à ta louange entonne, l'hymne à ta grâce, à ta fidélité. Ta joie et ton pardon en abondance, ta présence en mon cœur, ta chaude voix, ta force à chaque pas, ton espérance. Par ta fidélité, tout est à moi. » Amen. Soyez bénis.